marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Bien les enfants, reprenons notre leçon d'histoire.
L'hiver de la démocratie représentative.
Pour la première fois depuis 9 ans, le peuple français a fait entendre sa voix. Pour la première fois depuis toujours, ce cœur de 20 millions de voix comportait voix d'homme et voix de femme. Les opérations de dépouillement sont rondement menées dans chaque bureau. La France a voté. Et dans Paris, les électeurs viennent attendre les résultats de leur propre vote et aussi de celui du voisin. Les vainqueurs sont au nombre de 3, le Parti communiste, le Parti socialiste et le Mouvement républicain populaire.
C'était en 1945, le printemps, la fin des combats, le retour aux urnes. Il s'en est fallu de peu d'ailleurs, lorsque les démocraties représentatives d'Europe, qui n'étaient plus que 11 en 1939, auraient pu disparaître si le sort des armes avait été différent. Elles ne vont d'ailleurs connaître un renouveau que là où les Américains protégeront ce qu'on appelle alors l'Occident. Bon, les démocraties représentatives ont leurs limites. Ce n'est pas évidemment le peuple qui gouverne, mais en son nom les élites, choisies par les partis de gouvernement. Mais ceux-ci font preuve de leur crédibilité dans la gestion de la croissance qui caractérise la période des 30 glorieuses. Les choix des responsables que ces partis produisent et des politiques qu'ils conduisent correspondent aux intérêts des groupes sociaux qu'ils représentent. Après ce printemps et l'été des années 1960, un automne commence dès les années 1970 qui avance à des rythmes différents selon les pays. Une fois que les perspectives de croissance rétrécissent, les partis de gouvernement ne parviennent plus à mettre en œuvre des politiques qui puissent satisfaire leur électorat. D'autres facteurs qu'économiques interviennent, bien sûr. Mais c'est la grande récession de 2008 qui creuse les contradictions. Ce n'est que peu à peu que ces effets électoraux se font sentir. Les nouveaux clivages qui divisent les sociétés ne parviennent pas à s'exprimer dans les systèmes partisans tels qu'ils fonctionnaient. Nous sommes dans une époque où les seuls récits un peu cohérents que nous soyons capables de tenir sont ceux de la fin. Fin d'un cycle climatique, fin d'un cycle politique, etc., etc. Serons-nous capables d'en produire d'autres ? Après l'hiver, il y a peut-être des futurs inédits pour la démocratie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter.
Pierre Martin, bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous ai peint en tant qu'enfant, passionné des labors par votre mère, par une amie de votre mère, professeur d'histoire et de géographie, par la chose politique. Je n'ai pas dit que vous étiez aussi quelqu'un qui avait fait des études de mathématiques statistiques, ce qui pour un théoricien ou un praticien de la science politique, c'est ce que vous êtes devenu, est un peu inédit.
Oui, mais en même temps, pour moi, c'était fondamental. C'est-à-dire que, après le bac, au fond, j'avais le choix entre faire des études de mathématiques, scientifiques dures, ou faire des études d'histoire. Et je me suis dit, l'histoire, je peux l'apprendre un peu plus facilement par moi-même. Par contre, la formation scientifique, là, il faut que je l'acquière auprès de maîtres. Et je dois dire, je n'ai pas regretté ce choix. Parce que, effectivement, ça m'a permis d'avoir une base de réflexion scientifique qui m'a été après fondamentale pour analyser la politique, l'histoire. Mais bien entendu, il a fallu que dans ces domaines, en particulier les sciences politiques, là, je me forme auprès de nouveaux maîtres.
Alors, les nouveaux maîtres, Frédéric Bon, Alain Lancelot, qui vous protègent et qui introduisent l'étrange canard que vous êtes dans le milieu des sciences politiques, puisque votre spécialité à Sciences Po, mais avant Sciences Po, dans un grand parti de gouvernement, est d'analyser les évolutions électorales.
Et dans ce grand parti de gouvernement, j'ai eu énormément de chance de rencontrer Jean Popren, à la fois théoricien politique, leader politique, mais aussi universitaire.
Alors Jean Popren, ça fait penser tout de suite, PS, rue de Solferino, c'est vous qui faites l'aveu, oui. Pierre Martin.
Mais c'est revendiqué.
Et d'avoir vous me disiez qu'entre le résultat des élections, là, tel qu'il tombait le soir, avec vos correspondants qui vous racontaient ce qui se passait dans les bureaux de vote, et le bureau exécutif du Parti Socialiste qui préparait les éléments de langage pour la télévision, vous aviez 5 minutes. Voilà. Dans un couloir, puis dans un escalier, pour raconter
dans un ascenseur
à Jean Popren les grandes évolutions, ce que vous allez tenter de faire avec autant de brio en notre compagnie. Première période, celle que vous avez connue dans votre enfance, quand vous écoutiez la radio, là, qui était installée dans la cuisine familiale d'Evreux, c'est le temps des partis de gouvernement. Il y a une forte mobilisation électorale, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Et les différents groupes sociaux font confiance à des partis de gouvernement qui leur paraissent avoir une crédibilité gestionnaire.
Oui, absolument. Et ces trois caractéristiques que vous avez énumérées, c'est-à-dire forte participation électorale, faible volatilité électorale,
faible volatilité.
Force de grands partis qui, en France, à ce moment-là, étaient monopolisés par les gaullistes. Il y en avait surtout un grand parti, mais le cas de la France est un peu, je dirais, atypique. Dans les années 50-60, dans les autres pays européens, il y avait beaucoup plus de stabilité encore, avec en général deux grands partis, un parti de type social-démocrate ou travailliste à gauche, qui avait l'essentiel du vote ouvrier, et un parti de type conservateur ou démocrate chrétien, à droite, et qui lui aussi avait une forte influence populaire. Et ces trois caractéristiques, grand parti de gouvernement fort, faible volatilité électorale, forte participation électorale, faisaient que ces systèmes politiques étaient forts.
Et ça formait une sorte de club, les partis de gouvernement, dites-vous. Alors, un club dans lequel les sociodémocrates et les socialistes, après quelques hésitations qu'ils avaient connues avant, ont fini par entrer.
Oui, ça s'est fait progressivement. C'est-à-dire que c'est à la fin de cette période que les partis de gouvernement se sont, donc je dirais en gros à partir des années 70, pas avant, que les partis de gouvernement se sont rapprochés, sont en quelque sorte devenus un petit peu complices entre eux pour former un club national, c'est-à-dire dans chaque pays, au fond, il y avait des intérêts communs entre ces grands partis de gouvernement par rapport aux autres.
Le premier son qu'on va entendre vient de 5 colonnes à la une. Nous sommes pas encore dans cette période de transition que vous définissez. En 1964, les travaillistes, après 4 échecs, finissent par prendre le pouvoir aux conservateurs, et la bipolarisation, le dualisme, est très fort en Angleterre. À ce moment-là, le premier ministre travailliste qui vient d'être élu s'appelle Harold Wilson.
C'est par 5 sièges de majorité que les travaillistes l'ont emporté. Les Anglais ont dit oui à Mr. Wilson. C'est dans les régions industrielles, en Écosse, dans le Nord, et à Londres, que les travaillistes ont reconquis les sièges qu'ils avaient perdus depuis 13 ans. Ailleurs, la répartition des voix entre les deux grands partis n'a pratiquement pas changé, sauf dans certaines régions, près d'Oxford, à Douvres, par exemple, où les travaillistes prennent pied, et surtout à Brighton, forteresse conservatrice que les travaillistes enlèvent pour la première fois. C'est là que nous vous emmenons. Brighton, paradis des rentiers et des retraités, c'est ici que nous avons rencontré tout d'abord Mr. Henderson, officier en retraite de l'armée britannique.
Pour la première fois, j'ai voté travailliste, alors qu'auparavant, j'étais conservateur.
Pourquoi avez-vous changé de bord ?
Parce que je voulais voir des idées nouvelles, et parce que depuis 5 ans, les conservateurs n'ont pas grand-chose de nouveau à nous offrir. Et troisièmement, j'ai été impressionné par M. Wilson à la télévision. Et finalement, mon fils de 16 ans, lui aussi a été impressionné par lui et les idées travaillistes, et je crois que lui, il est jeune, et après tout, l'avenir est à lui.
Que font vos parents ?
Mon père est mort, mais il était ouvrier de bâtiment.
Est-ce que vous êtes travailliste ?
Ah oui.
Pourquoi ?
Parce que... Vous voyez, le parti travailliste en Angleterre, c'est le seul parti des ouvriers, des syndicats, etc.
Êtes-vous satisfait du nouveau gouvernement Wilson ?
Franchement, non.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que le programme actuel de Wilson ne va pas surmonter les contradictions de la société capitaliste en Angleterre.
Vous voyez tout de même, dans cet été, des partis de gouvernement, je vois comme des fêlures déjà. Pierre Martin, il peut y avoir volatilité. Le major britannique de l'armée des Indes qui passe du conservatisme au travaillisme. Et puis, ce fils de travailliste qui dit, est-ce que ce Wilson, c'est vraiment un socialiste? D'ailleurs, les travaillistes ont-ils été si socialistes que cela?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est d'une part que les raisons qui sont avancées par les électeurs pour expliquer leur choix, dans les deux cas qui viennent d'être cités, sont fort différentes. Le premier, c'est visiblement parce qu'il a envie de changer. Hein, et ça a joué, mais ça montre bien que c'est pas un phénomène de rejet. Donc les partis sont encore très légitimes. Hein. Il ne dit pas celui qui passe des conservateurs au travailliste, c'est parce que vraiment je suis très déçu des conservateurs, etc. On n'est pas dans une ambiance dont maintenant nous avons l'habitude. Hein. C'est au contraire quelqu'un qui se dit oh bah tentons les autres. Bien.
Et quant aux jeunes?
Alors quant aux jeunes, ce qui est intéressant à retenir, c'est d'abord le vote de fidélité. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait des partis de classe à ce moment-là. Et donc, quand on est ouvrier, a priori, on doit voter pour les travaillistes. C'est une évidence. Et la référence au père qui est mort est aussi très importante. Hein. Ça, c'est une attache fondamentale. Hein. À ce moment-là, les références de classe se transmettent aussi à l'intérieur des familles. Et il y a aussi l'impatience bien légitime, c'est-à-dire des jeunes qui voudraient que ça aille plus loin. Mais en réalité, le Parti travailliste britannique n'a jamais été un parti marxiste. Donc, je dirais, il y a aussi le phénomène qui a été déjà analysé à cette époque, que les partis qui ont leur base solide savent que pour gagner quand on est en situation bipolaire, faut aller vers le centre. Et donc, effectivement, ça explique un peu la frustration de ce jeune électeur ouvrier qui a senti que le parti travailliste essayait, avec succès, puisqu'on a vu ce conservateur qui avait changé, hein, de séduire l'électorat modéré.
Je vois pourquoi les grands partis de gouvernement faisaient appel à quelqu'un comme vous, capable d'analyser les résultats d'un bureau de vote de Brighton et de bien les différencier de ce qui se passait ailleurs et de ce qui s'était passé avant. 15 ans plus tard, 1978, le successeur de Wilson, Callaghan, va tomber dans une immense crise sociale qui annonce une autre époque, pourrait-on appeler ça l'automne des démocraties représentatives. C'est un arbre qui commence à s'abattre sous le micro de José Pivin. Les systèmes partisans commencent à entrer en crise. Je n'ai pas dit qu'aux presses de Sciences Po, quand même un prodige que votre livre paraisse, aux presses de Sciences Po, Pierre Martin, crise mondiale et système partisan, un livre dont on pense qu'il va avoir beaucoup d'écho et provoquer beaucoup de dégâts. Je ne sais pas si j'ai raison de parler d'automne de la démocratie représentative. Vous dites que l'élément explicatif numéro un de l'automne, c'est le rétrécissement de la croissance, alors que les attentes ne diminuent pas et au contraire croissent.
Oui, elles croissent parce que l'intervention de l'État a été croissante à partir de la Seconde Guerre mondiale. Hein, dans la logique d'une économie qui est de plus en plus marchande, là-dessus les travaux de Polanyi par exemple, hein, et dans le cadre d'une économie qui est de plus en plus marchandisée, où donc le nombre de salariés par rapport au nombre d'indépendants devient croissant, il y a nécessité pour assurer l'insertion dans la société des milieux populaires, qui est toujours une grande préoccupation des démocraties, hein, de développer l'État social. Or, qui dit développer l'État social, dit développer l'État.
Et donc, la bureaucratie.
Non, l'État, l'action de l'État, la bureaucratie est tout autant privée d'entreprise que publique. Et donc, à partir de ce moment-là, il est naturel que les électeurs demandent de plus en plus à l'État. Or, en même temps que, si je veux dire, cette demande augmente, d'une part par une intervention croissante de l'État, dans la logique de l'État social, du développement de la protection sociale, mais aussi dans une autre logique qui pousse à des demandes de plus en plus importantes, qui est l'augmentation du niveau d'instruction de la population. Le fait aussi que la société de consommation se développe dans les années 60, et donc que les électeurs, comme les consommateurs qu'ils sont dans la vie quotidienne, estiment qu'ils doivent avoir droit à plus de choix, à plus d'options. Donc tout ça devient de plus en plus difficile à gérer pour les gouvernants.
Parce que dites-vous, la politique est par nature une production de masse difficile à individualiser.
Oui, et d'une part, et d'autre part, cette difficulté des démocraties représentatives à gérer des demandes multiples avait été analysée dès les années 70 par la commission trilatérale. Et donc, à partir de ce moment-là, intervenant en plus avec la réduction, le déclin de la croissance, donc le déclin des possibilités pour les gouvernants de donner satisfaction, ça fait boule de neige quant aux déceptions et quant au mécontentement.
Vous insistez aussi, c'est pour ça que je vous parlais de bureaucratie publique et privée, sur la normalisation, la prolifération des normes. Oui. Parce que maintenant, ce sont les chiffres qui déterminent les faits. Et non plus les mots. Et les chiffres multipliés amènent des normes.
Oui, alors, d'abord, dans un premier temps, donc dans cette période de l'été des démocraties représentatives, il y a eu ce développement, effectivement, de la bureaucratie, des normes. Mais ce que l'on observe, c'est que ça explose encore plus dans la phase suivante qui est celle du néolibéralisme. Parce que contrairement aux promesses, et là je crois qu'il y a une très forte déception aussi dans la population, contrairement aux promesses qui ont été faites à la fin des années 70, que les réformes allaient réduire la complexité de la bureaucratisation, c'est l'inverse qui s'est produit, avec, dirais, des volontés croissantes d'expertise, d'évaluation, et je dirais les gens qui travaillent par exemple dans les hôpitaux ou dans les administrations savent à quel point maintenant ils sont débordés, mais aussi d'ailleurs dans la police, qui sont débordés, si je veux dire, d'évaluation à faire, etc.
Augmentation en revanche des chiffres de l'abstention. Nous sommes ici dans un reportage à la fin de cette période d'automne, au tout début du millénaire que nous avons commencé au haut du Lièvre, à la périphérie de Nancy.
Même sur les Hauts-du-Lièvre, nous sommes instruits, nous sommes intelligents, nous connaissons la vie publique, la politique, tout ça. On en parle entre nous. Donc, il faut que quelqu'un les pousse un petit peu. Bon, c'est ce que j'ai fait dernièrement quand il y a eu les élections. J'ai forcé un petit peu les gens à aller voter. Mais la plupart ne sont pas inscrits sur les listes. Bon, je sais qu'il y a eu des réunions à Nancy. J'ai emmené des personnes qui avaient des intéressés. Mais quand les hommes politiques ont commencé à parler avec des grands mots, des grandes phrases, des chiffres, les gens que j'avais amenés, ils étaient paumés, quoi. Ils ne comprenaient rien. Que des fois, il faudrait savoir discuter un peu avec les gens de banlieue. Un peu par leur langage, mais avec des mots simples et justes. Voilà, le monsieur, lui, c'est un... Par exemple, c'est le communiste, c'est le rebelle, c'est le révolutionnaire.
Je vote uniquement pour les présidentielles, alors pour les prochaines, je crois pas.
Ah, vous n'allez pas voter?
Non, je crois pas. Alors, moi, ils se foutent de nous. Oui, j'en ai rien à faire.
Combien de gens, c'est ce que j'ai expliqué.
En n'allant pas voter, c'est comme si je votais.
Non.
Du fait que j'ai commencé à bosser à la Gerlard, quand on faisait une grève, on ne demandait pas au patron. On ne posait pas un jour, on ne disait pas à quelle heure qu'on allait la faire. On faisait notre grève. On détruisait tout.
Voilà. Ah oui,
on nous a appris que... Bah si. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les avantages, tout ça, tout ce qu'on a eu à l'époque-là, quand on faisait ça, on les a gagnés, ces avantages. Et aujourd'hui, tous les jeunes, là, ils sont en train de tout perdre.
Qu'est-ce que vous faites comme boulot?
Moi, je suis chaudronnier. Il a du jour, du montage, monteur voltigeur de temps en temps. Voilà, en ce moment, je bosse pas.
Vous êtes au chômage?
Ouais. Là, ça fait ma 10e année.
Reportage sur France Culture, Rémi Dugois, Les Pieds sur Terre. Vous avez entendu Lucette parler de la nécessité de parler avec des mots simples et justes. Or, la manie des chiffres qu'elle dénonce, elle aussi, a gagné. La classe politique dont vous dites qu'elle est maintenant professionnalisée. Bon, elle l'a toujours été, Pierre Martin. Mais là, la professionnalisation consiste à ne plus représenter les intérêts des groupes sociaux dont on est issu, mais à être à égalité avec ses pairs en politique, quelque parti que soit le leur.
Elle n'a pas toujours été... Le monde politique n'a pas toujours été professionnalisé. Il faut bien comprendre que... Et n'a pas toujours constitué une classe politique. La grande différence, si vous voulez, c'est entre vivre pour la politique et vivre de la politique. À l'époque des notables, quand il ne, 19e siècle, au début du 20e siècle, quand il n'y avait pas de collaborateurs parlementaires, quand il n'y avait pas d'indemnité pour les parlementaires, ou très peu, c'était souvent soit des gens riches qui vivaient pour la politique, mais c'est-à-dire qui avaient leurs revenus, des propriétaires terriens, des rentiers, etc., soit, je dirais, des gens qui étaient promus par des forces sociales, mouvements ouvriers, etc., et qui les représentaient. Mais ces gens-là, ils vivaient pour la politique, mais ils ne vivaient pas par la politique. Avec le développement, je veux dire, du financement public de la vie politique. Avec le développement très important des collaborateurs parlementaires. Des rétributions des élus à des niveaux inférieurs. Avec le développement des permanents de partis politiques, que j'ai été, donc je sais de quoi je parle. Avec tout ce développement-là, c'est constitué un nombre important de gens, et ça n'est pas péjoratif, qui non seulement vivaient pour la politique, mais vivaient par la politique. De plus, dans tous les pays développés, à partir des années 1970, l'augmentation générale du niveau d'instruction a eu pour conséquence que la plupart de ces personnes issues des classes moyennes et classes moyennes supérieures avaient, de quelque parti que ce soit, de droite ou de gauche, à peu près la même formation universitaire. Et donc, participaient de la même culture. Et comme ils vivaient en plus dans les mêmes endroits, le Parlement, les élus, mais aussi tous leurs collaborateurs, faut pas simplement penser aux élus dans la classe politique. Il y a tout le personnel politique qui est autour se sont mis à constituer un groupe en soi, une classe politique.
Alors, j'insiste sur quelques vertus de votre livre, Crise mondiale et système partisan. C'est un livre qui parle du changement des paradigmes, qui ne porte pas de jugement idéologique, et qui porte, vous l'avez suggéré, sur toutes les démocraties représentatives à travers le monde, sauf l'Inde, qui connaissent des élections libres et régulières depuis longtemps. Et commence peut-être l'hiver. Alors c'est toujours le même arbre, vous savez, celui dont le sort funeste est suivi par José Pivin. Les paradigmes d'autrefois ne valent plus parce que sont introduits de nouveaux clivages. Il va falloir que vous parliez de cette théorie des clivages, Pierre Martin, qui existe grâce à un Norvégien, un Américain, depuis la fin des années 1960. Alors, on imagine les clivages traditionnels, la périphérie, le centre, État, Église, etc. Mais à partir de l'automne, il y a un nouveau clivage. À partir de l'hiver, il y a un autre nouveau clivage.
Alors, si vous voulez, l'idée centrale, je ne vais pas reprendre la théorie des clivages de Lipset, l'américain, et Rokan, le norvégien. Mais ce qui était le cœur de cette théorie, c'est que elle analysait les conséquences sur la formation des systèmes partisans des pays d'Europe occidentale du développement de l'État national, de la construction de l'État national par les élites nationales. Et l'actualisation de cette théorie des clivages, à laquelle je travaille, comme d'autres, elle part de l'idée que maintenant nous avons des élites, au fond, qui sont mondialisatrices. c'est-à-dire qui sont post-nationales, qui construisent depuis 1945, pas seulement depuis les années 70, des institutions internationales qui ont une vision, je dirais, mondiale des choses, et donc que de nouveaux clivages se développent en tant que mouvements sociaux, à partir de mouvements sociaux qui sont en réaction contre les politiques et les standards culturels de ces nouvelles élites, comme ça s'était passé pour les clivages liés au développement de l'État-nation.
Donc, et clivage identité, cosmopolitisme, le premier, selon vous, à apparaître déjà à l'automne.
Et sur lequel, d'ailleurs, tous les analystes sont d'accord. Hein.
Et puis le clivage altermondialiste, néolibéraux.
Le clivage cosmopolitisme... identité, c'est le clivage qui s'est développé à partir des années 80 autour des questions d'immigration, hein, mais aussi de souveraineté nationale et particulièrement en Europe par rapport à la construction de l'Union européenne. Hein. Mais le centre, c'est effectivement les attitudes autour de l'immigration. Hein. Donc là-dessus, pour les Français, c'est quelque chose de tout à fait concret, c'est le développement du Front National à partir des années 80.
Altermondialisme néolibéraux.
Alors, le deuxième clivage, lui, qui est un clivage qui est beaucoup plus centré sur des questions sociales, hein, alors que l'identité, c'est plus une question culturelle, hein, lui, il se développe à partir de la crise de 2008. Pourquoi ? Parce que cette crise donc économique, financière, elle met fin aux espoirs d'un redémarrage de la croissance. C'est-à-dire, et en particulier dans les couches moyennes, hein, et les classes moyennes et celles qui avaient très fortement investi sur l'enseignement dans la promotion sociale. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, le social revient sur le devant de la scène. Et donc, ce clivage que j'appelle altermondialiste néolibéraux va opposer les néolibéraux, ceux qui veulent le maintien de ces politiques économiques néolibérales mises en place à partir des années 70-80, et ceux qui, héritiers de l'idéologie développée dans les mouvements altermondialistes des années 2000, on pense aux 99% contre le 1% défavorisés, hein, des milieux les plus favorisés, ceux-là qui vont réclamer plus d'égalité sociale, mais aussi plus de démocratie.
Crise mondiale et système partisan aux presses de Sciences Po définit donc les trois pôles qui existeraient maintenant dans les démocraties encore représentatives et qui voient se chevaucher ces deux clivages nouveau. Juste un mot pour finir. Y a-t-il des futurs inédits qui soient autre chose que le récit d'une fin? C'est-à-dire, est-ce que la peur et l'espoir peuvent faire diminuer l'indifférence?
Oui, bien sûr. Je veux dire, le scénario pessimiste, au fond, on le voit bien, hein, c'est toutes les crises auxquelles nous avons affaire. Mais ce qu'il faut insister, je crois, c'est que... Les scénarios catastrophes ou les scénarios optimistes, hein, ils ont un défaut commun, c'est qu'ils sont, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de la diversité. Ils s'imaginent que l'évolution du monde va être la même partout. Or, ça n'est pas crédible. Les sociétés humaines sont extraordinairement différentes les unes des autres, et donc cette diversité va se maintenir. Et à partir de ce moment-là, on peut se dire que les avenirs vont être différents. Et du coup, cette incertitude quant à l'avenir ouvre un espace de liberté à l'action.
Donc, hiver peut-être de la démocratie représentative, mais printemps peut-être des démocraties,
oui, surtout que...
inédites au pluriel.